DFM。Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 22, aussi appelé l'épisode Jenson Button. Le 22 est le numéro de course du pilote britannique qui est entré en Formule 1 avec l'écurie Williams en 2000. Il avait comme Ralf Schumacher, c'était le coéquipier de Ralf Schumacher en 2000. Avant de s'en aller chez Benetton, qui allait devenir Renault en 2001 et en 2002. Et en 2003, il devenait le coéquipier de Jacques Villeneuve chez BAR, qui allait changer de nom pour Honda en 2006. Button a obtenu sa première pole position lors du Grand Prix de Saint-Marin 2004, une saison où il s'est révélé avec de nombreux podiums, mais sa première victoire eut lieu lors d'un Grand Prix de Hongrie 2006, complètement chaotique, où Michael Schumacher a eu des ennuis, Fernando Alonso, qui menait le championnat, a abandonné à cause d'un ennui de l'écurie, en raison d'un arrêt au puits raté de son écurie, et parce qu'il pleuvait, Button a gagné alors qu'il était en milieu de peloton, mais il devint champion du monde en 2009 avec la nouvelle écurie Brown GP qui allait devenir Mercedes. Mais Button, lui, a quitté Brown pour aller chez McLaren où il a disputé sa dernière course, dernière saison complète en 2016. Mais il est revenu de sa retraite très temporaire en 2017 pour remplacer Fernando Alonso qui était parti aux 500 000 d'Indianapolis en 2017. Et la légende dit que Button n'a toujours pas fait pipi sur le siège d'Alonso lorsqu'il a accroché Pascal Wehrlein lors de cette même épreuve. Et d'ailleurs, il est devenu papa très récemment. Félicitations, Jenson. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Singapour qui fut excitant et un peu électrisant aussi. Puis justement, on parlait de Ralf Schumacher. On va en parler dans la section En route vers la F1. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour parler de tout cela, j'ai mon bon ami Marc-André Fortet. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Ça va bien?
Oui, toi?
Ah, je vais beaucoup mieux. Le rhume est presque parti.
Donc, c'est ce qu'on veut. Ouais, t'es un petit peu grippé pour la dernière épisode, donc... On ne l'avait pas remarqué.
Dieu merci. Malgré tout, là, je vais mieux, je me sens en forme. Bon, j'ai dormi 2h30, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être en forme.
Oui, exactement.
Et j'espère que les pilotes à Singapour l'étaient aussi, parce que c'était une course très, très physique. Parce qu'on sait, c'est le Grand Prix qui est le plus demandant. Il fait chaud, il y a beaucoup de virages.
Et c'est très long.
Et c'est très long, oui. La course a presque duré... 2 heures de temps, donc ouais, ce fut toute une course. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. C'était le Grand Prix de Singapour en fin de semaine. C'était la 15e manche du championnat du monde 2019 sur 21. Une course, effectivement, comme on disait tout à l'heure, Marc-André et moi, une course qui a presque duré 2 heures. La course a duré 1h58 et 33 secondes. Et, attention, c'est Sébastien Vettel qui a remporté l'épreuve. C'est le retour du P1, Sébastien, et du Finger Boy. Donc, une victoire de l'Allemand après plus d'un an d'attente devant Charles Leclerc, Max Verstappen sur la Red Bull, Lewis Hamilton finit 4e, Valtteri Bottas 5e, Alex Albon, 6e. Lando Norris, 7e. Pierre Gasly, 8e. Nico Hülkenberg, 9e. Et Antonio Giovinazzi, 10e. Et voilà les pilotes qui ont marqué des points. Et pour la première fois de la saison, le point bonus du meilleur tour n'a pas été attribué, puisque le meilleur temps a été donné à Kevin Magnussen, mais qui a fini 17e et bon dernier des pilotes classifiés. Donc, et comme c'est la règle, le point bonus est attribué au pilote qui termine dans le top 10. Donc, pour la première fois en 15 courses depuis le retour des points bonus pour le meilleur tour, ben, un pilote n'en a pas. Bon! Alors, j'ai hâte de parler de cette épreuve, mais avant tout, Marc-André, est-ce que tu veux nous donner tes évaluations post-Grand Prix? Donc, hashtag perfo du jour, hashtag contre-perfo du jour et hashtag moment cocasse.
Bien sûr! Donc, je vais commencer par le hashtag moment... Ben, pas le cocasse, en fait, meilleure performance. Je l'ai donné à Vettel. Donc, oui. En fait, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. On l'a souvent vu soit ne pas terminer une course grâce à un accident ou bien tout juste terminer très loin pour la même raison. Et aujourd'hui, la chance a tourné vers lui, en fait. Charles Leclerc qui a été peut-être le perdant dans l'histoire entre les deux. Donc, en fait, Leclerc a réussi à avoir la pole hier. Et ce matin, en fait, Vettel s'est arrêté avant Leclerc. Et finalement, lorsque Leclerc s'est arrêté un petit peu plus tard dans la course, Vettel a réussi à passer devant lui et pour terminer premier. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Vettel dans cette forme-là, je dirais. Donc, je sais pas si tu as la même avis que moi de ce côté-là. Ça fait du bien quand même. Donc, on a eu plusieurs mauvais commentaires sur Vettel durant les derniers podcasts. Ouais. Et de le voir comme ça, là, c'est quand même plaisant.
Oh oui, effectivement. Et ça, c'est le retour du bon vieux Sébastien. Je sais que Brian, lorsqu'on revenait sur le Grand Prix d'Italie, il disait qu'il n'était plus dans le coup. Mais maintenant, je pense que Vettel, non seulement par chance, parce que oui, c'en était un petit peu une.
Un petit peu, mais
il a fait le travail. D'ailleurs, je pense
exact.
Que c'est moi aussi ma performance du jour. Moi, je l'ai même écrit sur Twitter, le retour du roi Vettel 5 de Singapour, parce que c'est sa 25e victoire sur ce circuit. En fait, même samedi, il a été excellent, malgré une petite erreur lors de son deuxième tour lancé en qualification. Mais c'est impressionnant de voir Ferrari sur un circuit où personne ne les voyait gagnants, parce qu'on pensait que ça allait être un duel entre Mercedes et Red Bull. Puis t'as Ferrari qui surgit de nulle part, et encore moins Sébastien Vettel.
Ouais.
Là, tu vois que il a donné son 110%. Donc, vraiment une performance du jour. Donc, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Sinon, toi, ta contre-performance du jour?
Écoute, il n'y a pas eu de pilotes qui m'ont déçu, je dirais. À part peut-être là, le contact entre Kvyat et Raikkonen qui aurait pu être évité autant d'un côté comme de l'autre. Là. On voit sur la séquence que Kvyat est un petit peu, on pourrait peut-être dire, un petit peu trop ambitieux. Mais en même temps, Raikkonen se colle sur Kvyat et finalement, c'est Raikkonen le grand perdant là-dedans vu qu'il a dû quitter la piste là, et ça. Il a vu sa course terminée. Mais non, écoute, il n'y a pas eu de grands pilotes qui m'ont déçu justement aujourd'hui. Gasly qui a bien fait, qui a terminé 8e. Donc, de ce côté-là, je peux pas avoir de mauvais commentaires. Donc, non, ça a été quand même une course assez bien pour la plupart des pilotes. Là.
Oui, les pilotes, moi j'ai trouvé tous les pilotes ont vraiment bien fait. Oui, évidemment, peut-être. Peut-être Raikkonen Kvyat, l'accrochage qui aurait dû être évité d'ailleurs, je pense. Mais sinon, moi, Moi, j'ai pas ma contre-perfo, je n'ai pas donné à un pilote, mais plus à une écurie, à Mercedes, parce que ils se sont ratés. L'écurie s'est ratée complètement en fin de semaine. Ce dimanche,
Ouais.
parce que ils ont laissé leur pilote un peu trop longtemps en piste. Puis au final, quand je suis allé préparer mon café, moi j'ai entendu dire, ah ben ils vont revenir derrière Hamilton va revenir derrière Verstappen. Mais je me disais, ouais, mais c'est arrête-toi maintenant là, c'est si tu veux éviter de souffrir encore plus. Et c'est ce qui s'est passé au final. Donc oui, les pneus de la Mercedes, les pneus d'Hamilton étaient encore plus frais que ceux des Ferrari, pardon. Mais au final, tu perds de la position et du temps aussi sur tes poursuivants. Donc, Mercedes, vraiment, c'est raté aujourd'hui. Puis en plus, ils ont demandé à Valtteri Bottas d'agir comme le wingman dont les gens aiment le surnommer, alors que c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire au final. Donc, vraiment une stratégie ratée pour Mercedes. Un Grand Prix raté, devrais-je dire. C'est pour ça qu'ils finissent quatrième et cinquième sur un circuit qui était favorable pour eux, en fait.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être voulu faire peut-être un petit peu comme ils ont fait en Hongrie, donc s'arrêter plus tard que Verstappen et tenter de profiter justement de la fraîcheté de la fraîcheur désolée de leurs pneus, mais finalement, en fin de compte, ça a été négatif. Donc ouais, je suis d'accord avec ta mauvaise performance d'aujourd'hui.
Oh oui. Et toi, as-tu un moment cocasse?
J'ai rien de cocasse en fait. Non, écoute, ça a été. J'ai pas regardé beaucoup Twitter non plus aujourd'hui. Donc souvent c'est de là d'où viennent nos idées. C'est de ce côté-là. Mais j'ai
Oui.
rien vu de frappant là aujourd'hui de mon côté. Donc j'espère que t'en as une. J'espère que t'as un petit moment. Donc.
Oh, en piste, j'ai rien trouvé de relativement cocasse, mais sinon, je dois dire, le compte Twitter de Force India en fin de semaine était en feu. Parce que, ils n'arrêtaient pas de tweeter pendant la course, en train de niaiser comme ils le font à l'habitude, les autres écuries, mais en fin de semaine, ils ont élevé le cran solide. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont même amusés à dire que la joke, une joke du compte officiel de la F1 sur Twitter était pas très bonne. Ils ont mis un emoji, la porte c'est par là pour dire sort, 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 ta joke est pas drôle. Puis en plus, je pense qu'ils avaient aussi. On l'a retweeté sur le compte du bulletin F1, mais tu vois, il y a Damon Hill, l'ancien champion. Ancien, je dirais pas. Il est un ancien. Il est un champion du monde. Champion du monde F1 en 96. Qui a répliqué un tweet de Force India qui mettait plein de petites étoiles, une à la suite de l'autre. Puis elle a dit. Attends, je vais te retrouver ça. Attends, je vais te retrouver cela. Oui, voilà. Il dit, c'est original, mais un peu ennuyant. Puis, Racing Point. Est-ce que j'ai dit Force India?
Oui, tu as dû passer le dire. Je voulais attendre que tu aies fini pour me passionner, mais ouais,
Oh.
effectivement.
Est-ce qu'il est trop tard pour changer de moment cocasse? Wow!
Non, mais écoute, c'est cocasse. Ouais, c'est
C'est cocasse,
cocasse.
c'est une habitude, je suis pas supposé, là. Je suis pas supposé les appeler Force India, là.
Mais ça
Bon,
dit bien, forcément, dire quand même,
ouais, ça, il faut se le cacher, il faut pas se le cacher, ça se dit bien Force India. Bref, Racing Point a dit, en répliquant à Damon Hill, « This is going to be our new Twitter bio. » Donc, ça va être leur nouvelle bio. Puis, quand vous allez sur le compte Racing Point F1, en un mot, sur Twitter, Il y a le tweet de Damon Hill comme biographie. Donc, ils nous ont fait vraiment rire sur Twitter. D'ailleurs, ils ont même aimé un de nos tweets, en fait. Merci Racing Point, c'est très apprécié.
Bref, oui, effectivement.
C'était un moment cocasse. C'était un moment cocasse, mais honnêtement, ce Grand Prix, il n'y en a pas eu tant. Hein.
Non, exact. Habituellement, on en a deux, trois qui ressortent. Puis en fin de semaine, en tout cas, si on n'allait pas voir justement sur Twitter, on n'avait rien à dire comme un moment cocasse.
Ah oui, j'ai oublié. Il y a aussi nos... tu sais, nos chers amis, là, ceux qui se croient être une boisson énergisante, là.
Oui.
dont on ne veut plus dire le nom jusqu'à la fin de la saison.
Ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore?
Ils sont revenus à la force. Ils sont revenus à la charge. Tu vois, quand il y a eu l'accrochage entre Romain Grosjean et George Russell, dont on va en reparler un peu plus tard dans le podcast, ils ont tweeté oups, avec une capture d'écran de l'accrochage entre Grosjean et George Russell. Donc.
On dirait qu'il y a de la rancune entre les deux groupes.
Mais tu sais, Marc-André, cette compagnie, c'est comme. Je sais pas, c'est comme. C'est comme de la colle chaude. Ça veut pas.
Tu peux jamais vraiment t'en débarrasser.
Tu peux pas t'en débarrasser, et voilà. Oui, voilà. Tu peux pas t'en débarrasser. Ils vont tout le temps te picosser. Ils vont tout le temps picosser là pour avoir du buzz. Puis je pense qu'on devrait. Arrêter de parler d'eux, en fait. En fait, si vous les voyez là, juste passez-les là. Faites comme si ils n'existaient pas. Puis je m'inclus. Je m'inclus là-dedans. Bref. On a fait le tour, mais sinon on en a deux sur Twitter. Francis Paquette qui dit performance du jour, c'est le stratégiste de Sébastien Vettel, le stratège de Lewis Hamilton contre performance du jour. C'est effectivement stratège de Lewis Hamilton. Puis, lui aussi n'a pas trouvé de moment cocasse. Sinon, on a Senville sur Twitter, que je salue. Perfo du jour, lui aussi, c'est le stratège de Vettel. Contre-performance du jour, stratège de Lewis Hamilton. Et le moment cocasse, c'est le retour de Torpedo, en faisant référence à Daniel Kvyat. Donc... On a fait pas mal le tour des évaluations. C'était pas mal les mêmes pour tout le monde, je crois. Alors, si tu veux bien, Marc-André, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On va parler du Grand Prix. Alors, on va commencer par le premier point. On va tout de suite en parler. Cette stratégie entre... Sébastien Vettel et Charles Leclerc, qui, en fait, était une stratégie, je dirais, intéressante, mais pour certains, un peu controversée. Je mets entre guillemets parce que Vettel est troisième. Je me souviens plus à quel tour il s'était arrêté, mais il est le premier du top 6 à s'arrêter et chose des pneus durs. Ensuite... Tu as Leclerc qui le suit et revient derrière Sébastien Vettel. Leclerc n'est pas content, il dit « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, il reste derrière Vettel, probablement pensant que ce dernier allait lui redonner la place, ce qui ne serait pas le cas. Puis ensuite, il y a eu l'intervention de la voiture de sécurité, il y a eu Lewis Hamilton avant cela qui... s'est arrêté quelques tours plus tard pour finalement être éliminé de la course pour la victoire. Donc, au final, Ferrari, à la place de finir premier et troisième, obtient un premier doublé depuis 2008. Donc, Marc-André, je voudrais avoir tes avis là-dessus.
Ben écoute, mon avis est assez nuancé, je dirais, puisque d'un côté, j'ai l'impression que du côté de Ferrari, on ne voulait pas nécessairement faire passer Vettel devant Leclerc, ce qui a finalement été le cas, mais beaucoup plus de faire passer Vettel devant Nico Hülkenberg pour que celui-ci ne le ralentisse pas, pour pas que Hamilton puisse passer devant Vettel, en fait pour que la stratégie de l'undercut fonctionne.
Oui.
Malheureusement, Leclerc a été pris aussi par lui-même par la stratégie de Vettel, mais j'aurais peut-être aimé ça que par respect Vettel laisse la place à Leclerc puisque Leclerc avait réussi tout de même à faire sa place durant la course, mais en même temps c'est contre mes valeurs que j'ai en course automobile de laisser passer un pilote. Donc la stratégie de Vettel a fonctionné et on ne peut que dire que c'était du bonbon à voir là, du côté de Ferrari. Là.
Oui, en fait, c'est un très bon point, mais je pense dans la mentalité de Ferrari, c'était pas ça, c'était vraiment d'aller justement aller chercher le doublé, parce que peu importe qui allait gagner, parce que si jamais par exemple Leclerc s'est arrêté, en fait si Ferrari avait laissé Leclerc un peu plus longtemps, lui il serait probablement revenu derrière Verstappen, ou bien même derrière, et encore pire, derrière Lewis Hamilton, puis c'est pas ça que Ferrari voulait. Donc, et en plus, Vettel avait fait de très beaux tours, alors que Leclerc, lui, ralentissait le rythme. Donc, je pense que Vettel a fait sa part, mais Ferrari a fait aussi la sienne. Parce que, imagine, si Verstappen, lui, il s'est arrêté en même temps que Vettel. Donc, si tu faisais rentrer Leclerc en premier, c'est sûr qu'il allait perdre le Grand Prix. Au rythme qu'il allait, là. Parce qu'il roulait, je pense, un peu plus lentement qu'Hamilton. Même si ce dernier en arrachait un peu, mais c'est sûr que Leclerc allait. C'est sûr que si Leclerc s'est arrêté en premier, il aurait perdu le Grand Prix de facto. Mais là, ce que Vettel a fait, c'était vraiment bien. Puis en plus, oui, je sais que Leclerc est pas content parce que c'était une stratégie qui n'a pas joué en sa faveur, mais de toute façon, il reste 6 ou 7 courses à la 6 courses à la saison. Ferrari est loin derrière Mercedes au championnat des constructeurs. Donc, ils essaient.
Le but, c'est l'équipe, là.
C'est ça. Maintenant, il n'y a plus d'enjeu. C'est vraiment d'aller chercher le plus de victoires possible pour finir sur une bonne note. Puis ça a vraiment fonctionné avec Vettel. Donc, oui, je comprends que Leclerc est frustré. Pas à cause de Sébastien Vettel, mais à cause de la stratégie. Mais, écoute, si ce n'était pas de ça, on n'aurait même pas parlé d'un doublé Ferrari. Ils ont entendu 11...
Probablement que nos commentaires aurait été négatif même présentement si jamais Leclerc avait perdu sa place contre Verstappen.
Ouais, puis c'est ça, je me dis. Et tu sais, à un moment donné, je me disais, puis moi, je l'ai même dit à Felipe sur Twitter, et même lui me disait, probablement ça va leur sauter dans la face. Parce que Ferrari a souvent eu la réputation de rater leur stratégie, puis on l'a vu beaucoup de fois cette saison. Mais là,
oui,
ils ont été excellents. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire l'undercut et en plus de préserver le doublé exactement qui, à la base, n'était pas prévu du tout. Donc, moi, je dois dire, chapeau stratégiste de Ferrari. Même si tout le monde aurait voulu voir Leclerc gagner, ça fait du bien de voir Sébastien sur la plus haute marche du podium.
Ok, oui. Et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sourire comme ça sur le podium. Il était énorme. Il était très, très heureux d'être là. Il s'apparaissait, là.
Ah oui, puis il y avait de l'émotion, d'ailleurs. Je pense que, vraiment, j'ai revu le Sébastien Vettel qui était très concentré, dominant. Vraiment, là, il y a quelque chose qui clique vraiment bien avec Singapour, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est sa 5e victoire sur ce circuit, et c'est pas un tracé facile. Parce que
non, exactement, et il s'est un peu rattrapé, vu que l'an dernier, il avait eu une crampe au cerveau, là, on se souviendrait, il l'avait mis Verstappen en sandwich, finalement, sa course avait terminé rapidement, donc c'est un peu peut-être la manière de se rattraper de l'an dernier, là.
Oui, aussi, parce que, tu vois, Vettel, maintenant, je pense que, oui, il y en a beaucoup qui disent que il est sous pression parce qu'il n'est probablement plus, il sait qu'il n'est probablement plus le numéro un pour le restant de la saison, mais une performance comme celle-là, il faut l'applaudir et célébrer cela parce que, comme je l'ai dit, personne ne s'attendait à voir Ferrari se battre pour la victoire et encore moins finir avec un doublé. Donc, si jamais l'occasion devait se représenter encore une fois, on sait jamais, la Formule 1, ça peut être très imprévisible. Donc, si ça devait arriver, ben, il faut savoir maximiser ses chances. Et la Formule 1 reste un sport d'équipe. Il y a l'individu et tout, mais il y a aussi un championnat des constructeurs. Donc, il faut savoir gagner en équipe. À l'inverse...
Oui, effectivement.
Oui. Et à l'inverse, on en a parlé un peu, mais tu as Mercedes qui s'est raté. Pourtant, quand j'ai regardé les essais libres vendredi matin, ça s'alignait vers un duel... Mercedes contre Max Verstappen. Donc, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Mercedes en fin de semaine?
Ben, durant les essais et la course, effectivement, on s'attendait justement à une Mercedes dominante due à sa force de moteur, mais aussi on a été habitué à des courses avec Mercedes en avant, même dans des circuits de comme d'aérodynamisme. Donc, ils ont cet aspect qui ont toujours été meilleurs que Ferrari de ce côté-là. Et dans ces circuits-là, cette écurie marchait très bien. Et aujourd'hui, ils se sont fait vraiment... comment je pourrais dire? Se sont fait jouer un tour par Ferrari, mais aussi par eux-mêmes, là, par une stratégie qui a été... raté. Donc, c'est vraiment vers eux qu'ils doivent se tourner pour cette défaite. Ils ont quand même terminé 3 et 4e. C'est pas comme si il avait terminé loin, mais en même temps, j'imagine qu'il visait probablement un doublé et sinon, là, au moins un podium.
Ouais, le podium était vraiment dans. Moi, je pense que le podium était dans le chapeau. Était dans le sac pour Hamilton. Bottas, peut-être moins, parce que moi, je l'ai trouvé un peu loin de tout le monde. Mais...
Ouais.
Je pense que... Et dans le pire dans tout ça, c'est que Hamilton a réussi quand même à accentuer son avance au championnat des pilotes. Donc, tu vois que Hamilton, oui, il veut prendre des... Oui, il veut capitaliser... Jusqu'à la fin de la saison pour qu'ils soient en mesure de gagner avant Abu Dhabi, mais quand tu regardes en fin de semaine, dire moi je veux rallonger mon relais pour revenir avec des pneus pour attaquer sur un circuit où, oui, il y a des zones de dépassement, mais c'est très difficile de dépasser. Et surtout avec la voiture de sécurité qui peut venir te jouer un tour, là. Moi, je pense que ils auraient dû changer de stratégie. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils sont restés avec leur plan. Ils ont payé pour. Donc,
Oui, exactement.
je pense
J'ai
que.
justement des commentaires que Hamilton a fait là. C'est article fait par qu'il mentionne, c'est que durant les briefings, donc les rencontres d'avant le Grand Prix, Hamilton avait stické sur le fait qu'il devait jouer le undercut, donc en fait faire un arrêt anticipé comme Vettel le fait. Et puis finalement, Mercedes ont pris la décision de ne pas jouer cette carte. Et puis il mentionne que nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Donc c'est exactement ça.
Oui, le classique. Puis en plus, tu remarqueras aussi que Verstappen, lui aussi, a fait l'undercut et ça a fonctionné. Il est monté sur le podium. Donc, vraiment, chapeau à Red Bull d'avoir joué la carte de l'undercut. Parce que je pense qu'à Singapour, parce que c'est une course où la température de la piste est très, très élevée. Et en plus, il y a eu la qualité de l'air qui était très mauvaise, donc ce qui pouvait affecter aussi les freins. Heureusement, on n'en a pas eu à parler beaucoup des freins, mais ce qui pouvait aussi affecter les pneus et tout. Tu peux pas trop te permettre de rester trop longtemps sur une piste comme celle-là. Puis, c'est pas seulement Mercedes, ça a été probablement plusieurs pilotes aussi. Je pense peut-être même à Antonio Giovinazzi ou bien Lance Stroll qui étaient bien devant, qui ont vraiment allongé leur relais, même s'ils étaient en gomme médium, ils sont revenus avec la gomme dure. La stratégie a fonctionné pour Giovinazzi, mais pour Stroll, ça allait plus ou moins bien avant qu'il ne tape le mur et qu'il ne fasse une crevaison. Donc, moi, je pense que l'undercut pour l'année prochaine, là, j'espère que Mercedes va s'en servir. Voilà, on a parlé de stratégie. Maintenant, autre sujet chaud de ce Grand Prix, c'est l'intervention de la première de trois voitures de sécurité causée par un accrochage entre Romain Grosjean de Haas et de George Russell sur la Williams. D'ailleurs, il faut le préciser, c'est le premier abandon de Williams cette saison. Donc, ça a pris 15 Grands Prix pour voir une Williams ne pas terminer une épreuve. Donc,
Ce qui n'est pas surprenant,
Est-ce
dû
qu'il
au
n'y a plus...
fait qu'ils ne sont jamais dans des bagarres.
Ah oui, bah... Et c'est rare, mais en fin de semaine à Singapour, les Williams ont été dans le coup dans plusieurs bagarres.
Ouais,
Malheureusement.
nous avons vu justement Russell, Kubica se battre en fait contre d'autres pilotes durant la course. Et en fait, je pense que nous n'avions jamais vu ça. Peut-être une seule fois en Allemagne, je dirais. C'est peut-être l'autre endroit où nous avons vu ça, les Williams dans le coup, disons.
Oui.
Même s'ils étaient, elles étaient quand même très loin.
Ouais, et on parle pas de course pour les points, évidemment, parce que je pense que
Non, exactement.
c'était pas cela, mais ils se battaient en piste. Et malheureusement pour Russell, ben, ça ne s'est pas très bien terminé, puisque lorsqu'il essayait de se défendre avec Romain Grosjean au virage 8, il est devant, puis Grosjean, qui est sur la partie, disons, intérieur du circuit, à l'extérieur du virage 8, on va dire, eh bien, il n'a pas d'espace et accroche la Williams du Britannique. Ce dernier se retrouve dans le mur. La course est terminée et bam, première voiture de sécurité de Troyes. Russell a dit à la radio qu'il n'était pas surpris, étant donné que c'était Romain Grosjean. Mais, et même en entrevue, il a dit, il jette le blâme sur Grosjean. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marc-André?
Ben écoute, je suis en train de, justement de regarder la séquence. Je trouve que, encore là, les deux n'ont pas vraiment de tort. J'ai l'impression que Grosjean a gardé sa ligne de course et que, de mon point de vue, c'est beaucoup plus Russell qui a collé peut-être Grosjean, mais tu sais, nous avons un point de vue, donc un point de caméra. Donc c'est sûr que c'est pas simple d'affirmer avec conviction là, qui est en tort, mais parce que j'ai l'impression que Russell avait de l'espace encore, ou il aurait pu donner encore plus d'espace à Grosjean, mais en même temps, il était devant, donc c'est très dur à dire.
Ouais, ben, tu dis peut-être...
Je sais pas comment t'as vu ça de ton côté, là.
Mais moi, je pense que c'était un peu bête de la part de Grosjean, je veux dire, parce que, oui, tu dis que Russell aurait pu lui donner de l'espace, mais Grosjean, lui, aurait peut-être pu juste lever un peu la pédale d'accélérateur pour justement se donner un peu plus de lousse. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Évidemment, tu vas pas lâcher l'accélérateur complètement, mais tu vas au moins te donner un espace pour essayer de dépasser à un autre endroit. Donc, moi, je vois que, oui, Grosjean est un peu et dans le temps à un certain moment, mais en même temps, il pouvait pas dire bon, j'arrête puis je vais reprendre parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il va il perd du temps aussi. Donc oui Grosjean, donc comme je dis, oui, Grosjean a une certaine part de responsabilité, mais en même temps, c'est très touché comme situation.
Donc, ouais, exactement. C'est assez serré des deux côtés. Je pense que la FIA, les commissaires ont pris une bonne décision là, en justement en ne donnant aucune pénalité, autant pour Grosjean que pour Russell, dans cette situation-là, en tout cas.
Exactement, donc aucune sanction pour les deux pilotes, mais c'est quand même dommage parce que Russell faisait, comme avec Robert Kubica, une très bonne course. Donc les deux pilotes Williams étaient vraiment dans le coup pour s'offrir...
Au moins se battre un peu.
Ouais, exactement, parce qu'ils n'ont pas eu tant ce luxe cette année, avec tous les problèmes que la voiture a, elle est très lente. Mais là, sur un circuit à Singapour où on n'a pas besoin de tant de puissance moteur, au moins, ça s'est bien passé dans le cas des deux pilotes, surtout avec Robert Kubica qui se retrouvait dans n'importe quelle bataille à l'arrière du peloton, mais c'était très beau à voir quand même. Autre moment intéressant, on a eu un meneur inattendu, puisque Antonio Giovinazzi, après que le top 6 se soit arrêté, s'est retrouvé en tête du Grand Prix de Singapour, et c'est la première fois qu'un pilote qui n'est pas Ferrari, Mercedes ou Red Bull mène un Grand Prix. C'est la dernière fois que ça s'est produit, c'était Valtteri Bottas en 2015 avec Williams lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais Giovinazzi, oui, non seulement a mené le Grand Prix, mais a ramené un point quand même important dans une course où Kimi Räikkönen a abandonné en raison d'un accrochage avec Dani Kvyat. Mais Giovinazzi s'est pris une pénalité de 10 secondes pour avoir roulé trop près d'une grue qui ramassait justement la Williams de Russell. Alors, moi, j'ai vraiment été impressionné par la course de Giovinazzi. Est-ce que tu crois que ça va être suffisant pour sécuriser son volant pour 2020?
Ah, oh, sans aucun doute. Moi, je pense que malheureusement, on parle présentement peut-être de petits rumeurs là, sur. Puis évidemment, c'est normal, là, le Hülkenberg se cherche. Voilà. Mais j'ai l'impression que du côté d'Alfa Romeo, on va vouloir pour des raisons de autant de stratégie. Je ne le vois pas partir, mais
ouais.
Il le mérite aussi sa place, en fait. C'est un pilote qui, plus les courses avancent, meilleur il est.
Oui.
On se souviendra qu'il avait fait son apparition il y a peut-être un ou deux ans en Chine, et ça n'avait pas été rose pour lui. Finalement, il a appris. Cette année a été un partant, donc il a eu un poste là, officiel. Et puis, il démontre Grand Prix après Grand Prix qu'il s'améliore, et j'ai déjà hâte de le voir l'an prochain, après cette progression de cette première année, en fait.
Ah oui, et puis en plus, je pense que Frédéric Vasseur, le directeur sportif d'Alfa Romeo, est clair. Je pense qu'il a confiance en Giovinazzi. Il a même dit en entrevue il y a quelques mois que il faut lui donner sa chance. C'est une question d'adaptation parce que c'est sa première saison complète en Formule 1. Oui, tu as parlé justement de ces courses qu'il a faites en remplacement de Pascal Wehrlein il y a 2 ans. Mais la Formule 1 a changé entre-temps, donc Giovinazzi s'acclimate très bien. Puis, t'as vu, même en Belgique, malgré son accident dans le dernier tour, c'était une course parfaite pour lui. Donc, tu vois que, vraiment, là, il réussit vraiment à prouver qu'il est solide. Il est solide. Avec la voiture qu'il a, la Alfa Romeo est vraiment bonne. Comparé à l'année dernière, elle est vraiment bonne. Donc, Giovinazzi essaie de tirer au maximum. Et malheureusement, il a été, disons, malchanceux aussi avec l'accrochage avec Daniel Ricciardo. Heureusement, il n'a pas eu de dommages. Pas de temps, je crois. Mais c'est une bonne performance de la part de l'Italien. Et puis moi, je ne serais pas surpris s'il devait être prolongé pour une autre saison avec Alfa Romeo, même si ça veut dire qu'on perd un bon pilote en Nico Hülkenberg. Mais Giovinazzi, pour moi, si il commence la saison avec la forme qu'il a actuellement, c'est clair qu'il va connaître une saison 2020 assez excitante. Donc, vraiment une bonne course de la part de Giovinazzi. Mais si ça a bien été pour Giovinazzi, ça n'a pas très bien été pour Racing Point, qui attendait ce Grand Prix de Singapour avec impatience parce que ils avaient effectué 2 belles courses avec Sergio Perez qui finit dans le top 6 et Lance Stroll qui montre qu'il devient de plus en plus mature. Malheureusement, ils n'ont pas marqué de points. Sergio Perez a abandonné alors qu'il était 10e sur une fuite d'huile. Et Stroll, malgré un contact avec Pierre Gasly à la relance de la première voiture de sécurité exactement, il a tapé le mur, donc il y a eu une crevaison au pneu avant droit. Mais, il faut se le dire, Stroll s'est bien battu en fin de course, n'est-ce pas Marc-André?
Oui, il s'est très bien battu. Il était impliqué dans plusieurs bagarres excitantes pour tout le monde. Et puis, c'est comme ça qu'on aime le voir. Écoute, il performe bien avec la voiture qu'il a. Et c'est certain que... je sais pas s'il y a eu un bris lors du contact avec Gasly, mais il m'a semblé un petit peu plus lent qu'en début de course. Mais non, en général, ça a été un bon Grand Prix pour lui, malgré tout, de son côté.
Oui, exactement. Puis je dois dire, en plus, je pense à la relance, Perez et Stroll étaient 10e et 11e respectivement. Donc, Racing Point, ça allait probablement pour... des petits points, mais des petits points très importants, surtout dans le fait où tu as Renault qui a vu Hülkenberg justement marquer des points. Donc, dans un sens, c'est très dur à avaler la 13e place dans les circonstances. Mais je pense que il y a du progrès autant chez les pilotes que sur la voiture. On va voir qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine en Russie, mais constat général de ce dimanche, des bonnes performances, pas exceptionnelles ou très bonnes, juste bonnes, correctes, ils ont fait le travail. C'est dommage pour Stroll, ça l'est encore plus pour Sergio Perez. Donc, moi je pense qu'il y a peut-être de meilleures attentes en Russie.
Ouais, probablement.
Ouais, et puis probablement aussi de meilleures pour Daniel Ricciardo aussi, parce que pendant une première partie de la course, il a été celui qui a animé une partie de l'épreuve avec des dépassements. Pour ceux qui ne le savaient pas, Ricciardo avait été disqualifié de la séance de qualification pour avoir utiliser un surplus d'énergie dans le MGUK, donc qui est la récupération de l'énergie par les freins. Donc il a utilisé un surplus pour, apparemment je crois, une microseconde. Donc c'est minime, mais c'était suffisant pour le disqualifier quand même, parce que c'est un surplus d'énergie quand même. Mais je dois dire, Ricardo,
j'ai trouvé la décision quand même assez forte de mon côté. Il y a eu plusieurs débats. J'ai l'impression que les commissaires ont décidé de vraiment appliquer la règle à la lettre. Mais peut-être une simple annulation de tour aurait été assez pour Ricardo comme conséquence. Mais bon, tout de même, il a réussi à revenir 12e, est-ce que c'est ça, 12 ou 11e?
14, je crois.
14?
14, si je ne me trompe pas, parce 14, que Stroll l'a dépassé en fin de course.
Ouais, mais effectivement, donc 14e, ouais.
Ouais, mais en même temps, je pense aussi la raison, c'est parce que ça s'est produit durant la Q1, donc probablement que Ricardo se sentait en danger, donc il a utilisé le surplus pour une milliseconde, mais une milliseconde, ça peut être suffisant pour passer en Q2, donc c'est un peu un avantage injuste. Donc si tu utilises le surplus à des fins de survie, c'est sûr que si la FIA voit ça, elle va sévir. Donc, oui, la pénalité, ben, la disqualification, elle est sévère pour une microseconde, mais elle est juste dans les circonstances. Mais sinon, en course... il a vraiment animé. Puis je pense que il pouvait vraiment aller chercher un point. Un point, mais ça, c'était... S'il n'avait pas eu un contact avec Giovinazzi, parce que ça a entraîné une crevaison.
Oui, effectivement. Donc, un petit contact en fin de course avec Giovinazzi. J'ai l'impression aussi qu'il aurait pu réussir à rentrer dans les points. Ça aurait été un point quand même important du côté de nous qui ont connu des bonnes performances dans les dernières semaines. Donc, c'est certain que de leur côté, ça aurait été un point de consolation important quand même. Là.
Oui, exactement. Et c'est dommage pour Ricardo, parce que quand même, quand tu regardes Lando Norris qui a fait sa course aussi, mais qui va chercher 6 points parce qu'il y a cette lutte pour la 4e place. Oui, 2 points, c'est bien pour Renault, mais je pense qu'ils auraient voulu en avoir plus. Puis la disqualification, elle fait très très mal. Parce que ça permet au moins à McLaren de souffrir un peu plus avant le Grand Prix de Russie. Qui probablement va être un circuit où la vitesse est quand même importante. Puis peut-être un peu moins d'appui aérodynamique et en fait beaucoup moins qu'à Singapour. Donc là-dessus, peut-être que Renault pourrait avoir un avantage sur McLaren. Donc cette disqualification en qualif, elle fait mal. Mais en même temps, l'accrochage avec Giovinazzi l'est tout autant aussi. Parce que, qui sait, Ricardo aurait fait une très belle performance. Donc, voilà, c'est ce qui complète en fait le tour du Grand Prix de Singapour. Ça a été pas mal ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y avait un autre moment important d'après toi, Marc-André?
Est-ce qu'on a parlé de l'accrochage Kvyat contre Raikkonen?
Ah oui. Ben tiens, on va en parler justement.
Je n'étais pas sûr si on l'avait fait avant de commencer ou on en avait parlé durant le podcast. Donc,
ouais, on en a parlé un petit peu, mais tiens, on va y aller en détail parce que moi je mets le blâme sur Kvyat parce que comme tu l'as dit, c'était un move ambitieux. C'était vraiment ambitieux de sa part. Raikkonen, lui, a juste essayé de défendre, mais c'était un plongeon, vraiment, de la part du Russe. Donc...
C'était un plongeon, mais il y avait de l'espace, par contre.
Oui, c'est... oui.
Je suis en train, justement, de regarder la séquence. J'ai l'impression que Kimi Raikkonen a senti la presse... Ben, en fait, a vu dans son rétroviseur Kvyat arriver, justement, en plongeon. Dans le virage et qui s'est défendu d'une manière peut-être il est venu coller Kvyat mais encore là c'est encore difficile à dire là c'est quand même à vitesse grand V là mais j'ai l'impression que Kimi Raikkonen aurait pu se défendre d'une autre manière mais c'est assez serré disons là.
Ouais, exactement. Puis la FIA a décidé de ne pas sévir. Donc, la FIA a décidé de ne pas sévir sur l'action. Donc, de toute façon, Kvyat n'est pas content que Raikkonen ait décidé de tourner le volant dernière minute pour défendre sa position. Mais Raikkonen, je sais pas, lui, ce qu'il en a passé, c'est... Je pense qu'il ne regrette pas le move de défense. C'est de toute façon autant un pour l'autre leur course était ruinée déjà à la base. Donc
ouais, exactement.
Autant les deux pilotes n'avaient pas vraiment de rythme de course donc c'était pas Raikkonen, oui, c'est triste parce que c'était son 309e Grand Prix, puis il a égalé la marque de Michael Schumacher. Mais, contrairement à Giovinazzi, Raikkonen n'avait aucunement le rythme pour aller marquer un point. Donc, et encore moins Daniil Kvyat.
Donc,
oui, c'est ça qui est ça. C'est un incident de course, comme ça a été le cas entre Grosjean et Russell. Donc voilà. Ah oui, puis précisons aussi avant de terminer que Kevin Magnussen a été obligé de faire un arrêt supplémentaire parce que il a retrouvé un sac de plastique dans ses radiateurs.
Oui, j'ai durant le podcast aussi.
Oui.
Finalement, donc... ça aurait pu être ça notre petit moment de coquette.
Ouais, exactement. Ouais. Ben moi, je suis prêt. Moi, je garde quand même le mien où je rebaptise Racing Point de Force India. Mais pour finir avec Magnussen, la morale, quand vous êtes dans un Grand Prix, faites attention à vos déchets. Parce que non seulement c'est pas très bon pour l'environnement, déjà à la base, mais vous pouvez ruiner une course.
Ça peut être
Exactement. Ça peut être très dangereux pour les pilotes parce que ça peut presque ruiner une course comme ce que Magnussen a fait. Et en plus, il faisait bien. Il était dans les points, le pauvre. Le pauvre était dans les points à certains moments de la course.
Oui, oui. Donc, il avait été malchanceux, là. Mauvaise position lorsque la sécurité sortait. au circuit, puis qui arrive de nulle part, en fait, là, un sac de place qui se dans son aileron. Et puis, ils ont dû, évidemment, venir chercher le petit sac. Donc,
parce que, évidemment.
C'est dans ce côté de Magnussen qui connaît ce bon Grand Prix dans les circonstances, quand même.
Oh oui, oui, oui. Je pense qu'il était 9e à un certain moment, jusqu'à l'arrivée du sac en plastique. Puis en plus, un sac en plastique sur un aileron avant, même si c'est à Singapour, ben, ça peut vous faire perdre des dixièmes de seconde. Beaucoup de dixièmes de seconde. Donc, voilà, c'est ce qui complète.
Ça en prend très peu en F1, justement.
Et voilà, ça en prend très peu. Donc, la morale de l'histoire, faites attention à vos déchets. C'est tout. Et surtout quand vous êtes à Singapour, parce que vous pouvez vous faire arrêter par la police si vous êtes pris en flagrant délit. Et ça, c'est une histoire vraie. Donc, c'est ce qui complète le survol du Grand Prix de Singapour. Je vais vous donner tout de suite le classement des pilotes après cette épreuve à Singapour. Donc, Hamilton se rapproche de la barre des 300 points. Il en a 296. Bottas en a 231. Et il y a égalité au troisième rang. Charles Leclerc, maintenant, est troisième devant Max Verstappen. Les deux ont 200 points. Et pourtant, les deux ont deux victoires. Mais Leclerc a le plus de deuxième position. Ce qui l'avantage... Sébastien Vettel n'est pas très loin avec 94 points. Pierre Gasly, qui marque des points avec sa 8e place, a 69 points. Nice. Carlos Sainz. Carlos Sainz. C'est bien. Carlos Sainz a 58 points. Alex Albon passe devant Daniel Ricciardo au 8e rang avec 42 points contre 34 pour Ricciardo, et Kvyat complète le top 10 avec 33 points. Au championnat des constructeurs, Mercedes continue d'accentuer son... disons, l'écart s'est réduit. Pour une des rares fois, l'écart s'est réduit. Mais Mercedes... entre Mercedes et Ferrari, mais Mercedes... garde toujours son avantage. 527 points pour Mercedes contre 394 pour Ferrari. Red Bull en a 289. McLaren contre 89 points. Renault en a 67. Donc, j'espère que Renault n'aura pas deux autres points en Russie. Ça me tente pas de refaire la même blague. Toro Rosso a 55 points au 6e rang. Racing Point reste avec 46. Alfa Romeo a 35 points. Haas 26 et Williams 1 point. La prochaine épreuve aura lieu la semaine prochaine au pays de Vladimir Poutine. En Russie, à Sochi, lieu des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Avant de conclure cet épisode, Marc-André, tu sais, j'avais dit qu'on allait parler de Ralf Schumacher.
Oui.
Eh bien, imagine-toi que son fils, David, a remporté la deuxième course du week-end en Formula Régionale Européenne à Barcelone, en Espagne. Et ça, c'est la série qui était, en fait, la Formule 3 européenne qui a été sanctionnée par la FIA jusqu'à l'année passée et qui a maintenant fait un croisement avec la GP3. Donc, la Formule 3 européenne est devenue la Formula Regionale Européenne. David Schumacher a remporté la course numéro 2. Donc, félicitations à David. Déjà qu'il y a Mick en Formule 2 qui fait quand même bien à son année recrue. Qui sait, après... si jamais tout va bien, peut-être qu'on aura ce qu'on avait vu avec Michael Schumacher et Ralph lorsque les deux étaient en Formule 1. On pourra... Mais cette fois-ci, ce seront les cousins Schumacher. Donc, David Schumacher qui a remporté la deuxième course de l'épreuve de Barcelone en Formula Régionale Européenne. Je pense que les courses sont disponibles sur YouTube si vous voulez aller les voir. Il y a les faits saillants aussi. Donc, si vous voulez découvrir David Schumacher, sentez-vous libre, c'est sur YouTube. Donc voilà, c'est ce qui complète l'épisode du bulletin F1. La semaine prochaine, on va revenir sur le Grand Prix de Russie. Donc si jamais vous avez aimé ça, vous pouvez nous laisser des commentaires sur notre site bulletinf1.com. Il y aura le bulletin de notes du Grand Prix de Singapour. Il y aura d'autres chroniques qui vont venir. Si jamais vous voulez écouter le podcast, c'est disponible autant sur le site que sur vos plateformes de podcast préférées, donc Balado Québec, Google Play, Apple Podcast et Stitcher, TuneIn. Donc, si jamais vous voulez passer le mot, sentez-vous libre. On est disponible vraiment partout sur vos plateformes de podcast préférées. Alors, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Abdou, encore une fois.
Ça me fait plaisir. J'espère qu'on va avoir Brian. Je sais qu'il est occupé. Il était très occupé, donc on ne pouvait pas être là. Mais nous, on sera là la semaine prochaine pour l'épisode numéro 23 du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et profitez, si ce n'est pas déjà le cas, des premières températures automnales. Salut tout le monde!